Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir, grâce à la technique et au téléphone, Jean-Pierre Siméon. Jean-Pierre Siméon, bonsoir.
Bonsoir.
Merci encore une fois d'être avec nous ici à Radio Occitanie pour parler de poésie. Nous avions pris rendez-vous lors de notre dernière émission pour la parution du dernier livre de poèmes de Jean-Pierre Siméon, Levez-vous du tombeau, qui vient de paraître donc chez Gallimard. Donc, nous allons parler de Levez-vous du tombeau, qui s'inscrit dans ce que Jean-Pierre Siméon nous avait bien expliqué lors de la dernière émission, qu'il revendiquait pour la poésie le courage de témoigner contre le nihilisme souffreteux de ce temps, disait-il dans Politique de la beauté, à elle de promouvoir, poème à poème, une politique de la beauté dont le principe est d'incandescence dans la nuit. Alors Jean-Pierre, Levez-vous du tombeau va tout à fait dans le sens de ce que nous avait annoncé Politique de la beauté.
Oui, bien sûr, c'est exactement, j'ai de la suite dans les idées. C'est aussi la suite de laisser la poésie sauver le monde, c'est-à-dire que à chaque fois, je reprends le même propos obstinément, qui est de dire combien la poésie peut être source de clarté, de compréhension du monde et de ses malheurs et de ses désastres, et combien aussi elle peut être objection à ses malheurs et ses désastres. La poésie n'est pas seulement cette belle chose chantante, n'est-ce pas, avec de beaux vers à admirer et à polir, ou à polir et admirer, mais je pense, et je crois que je ne suis pas le seul, que la poésie est d'abord un argument de vie, un argument d'existence, et qu'elle permet de trouver des alternatives au mauvais cours des choses. Pourquoi? Parce que depuis toujours, je crois, à travers toute la parole des poètes, se propose une autre façon d'habiter le monde, de comprendre l'univers dans lequel on est, de comprendre aussi la vie sociale. Et c'est pour ça que je parle de politique, c'est-à-dire que c'est une autre façon d'imaginer le rapport de l'homme à la nature, au cosmos, de l'homme à son environnement humain aussi, donc un autre rapport à l'autre, et une autre façon de s'habiter soi-même. Contre, et je le répète, contre toutes les fausses valeurs, les totems qu'on érige comme ça et devant lesquels, malheureusement, nos cultures contemporaines, nos civilisations contemporaines sont à genoux, c'est-à-dire les fameux totems de l'avoir, du pouvoir et du paraître. Aujourd'hui, il n'y aurait de salut que dans la possession, le bien, la richesse, la finance, c'est l'avoir, hein, ou le pouvoir, être plus grand, plus fort, plus que l'autre, dominer l'autre, etc. Voire se dominer soi-même, c'est la dernière antienne de toutes les propositions qu'on fait à chacun, essayer de vous maîtriser vous-même, c'est-à-dire qu'on serait dans un combat perpétuel contre soi-même, pour être plus que soi-même. Enfin, il y a aussi une dérive là que je trouve dangereuse dans en tout cas cette façon-là de le penser. Et puis le paraître, on voit bien aujourd'hui le ravage de tout ce qui est le faux réel dont nous sommes accablés, je peux dire, ce réel qui est dans le miroir aux alouettes des images en tout genre, quoi. Donc on compose un réel sur lequel on surfe, on traverse des images à toute vitesse, on est pris dans un kaléidoscope d'apparence et on perd au fond la réelle qui n'est que l'arrêt dans la profondeur, qui demande la lenteur, qui demande l'inscription sensuelle, l'enracinement, je veux dire, l'inscription sensuelle dans la réalité, dans le corps, dans le corps du monde tel que nous le vivons, le vent, la neige, la pluie, le soleil, la chair des arbres, si je peux dire, et la chair des ruisseaux. Voilà. Donc, moi, j'essaie, à travers la poésie, de faire entendre cette note-là, ce diapason-là, en disant, mais il y a une autre façon de penser la vie, de penser donc peut-être le devenir humain même, allons jusque-là, n'ayons pas peur des grands mots, la maison brûle, la situation est grave, donc n'ayons pas peur des grands mots et des grands projets, et il y a une autre façon de penser le devenir humain que cette façon qui a été illustrée à travers toutes les civilisations depuis l'aube de l'humanité, et qui encore une fois a toujours été plus ou moins subordonnée à ces fétiches dont je parlais, de l'avoir, du pouvoir et du paraître. Et la poésie incarne l'exact contraire. les poètes se fichent de l'avoir, sauf le minimum vital, évidemment, on n'est pas con non plus, n'est-ce pas? Évidemment qu'on a le souci que tout le monde ait de quoi manger et s'habiller normalement, etc. Mais c'est pas dans une obsession de l'accumulation du bien, qui est une obsession, l'obsession bourgeoise, de l'épicier bourgeois dont se moquait Flaubert ou Baudelaire d'ailleurs au XIXe siècle. Et le poète, il met toujours l'être avant le paraître, et la question du pouvoir ne l'intéresse pas. Les poètes n'ont jamais cette volonté de domination. Ils ont dans la volonté du partage et de l'échange, du questionnement devant ce qui est en face d'eux, près d'eux. C'est-à-dire une sorte de curiosité et de goût de l'inconnu qui fait qu'on a un cœur ouvert, des yeux ouverts devant ce qui nous dissemble. Alors que aujourd'hui, on serait obsédé que par ce qui nous ressemble. On voudrait se remettre, vous savez, les côtés identitaires, les communautarismes. On voudrait être entre soi avec ceux qui nous ressemblent. La poésie a toujours cherché ce qui dissemble, ce qui est neuf, ce qui est inattendu, ce qui est imprévu, l'autre, quoi. Voilà, Christian, quelques mots, le propos de mon livre.
Tout à fait. Et donc, la société, notre société actuelle est un peu le contre-pied de ce que tu viens de dire, hein. Et donc, d'où de nouveau cette idée qui était que la poésie va sauver le monde, qui était bien sûr une provocation, mais qui apparaît comme de plus en plus quelque chose de possible.
Oui, parce que, bien sûr, quand je dis la poésie sauve le monde, et j'expliquais aussi, peut-être, levez-vous du tombeau, ce type, qui est aussi une provocation, oui, mais il faut provoquer à la pensée, voilà. Quoi. Et quand je dis la poésie sauve le monde, évidemment, c'est pas le poème qui va sauver le monde. Le poème, il a jamais arrêté une guerre, il a jamais empêché les inondations, ni le changement climatique. Mais c'est ce que représente le geste poétique. Et tous ceux qui ont organisé leur vie autour de l'acte poétique, tous les artistes par exemple, n'est-ce pas? Mais on peut aussi ne rien écrire et ne rien dessiner ou peindre ou chanter et être profondément un être poétique, c'est-à-dire c'est une manière, comme je l'ai dit, d'être au monde. C'est une manière ouverte, gourmande, qui a besoin du sens toujours nouveau et imprévu. Et la façon contraire d'habiter poétiquement le monde, puisqu'on peut parler d'habiter poétiquement le monde, c'est la façon qui est prônée aujourd'hui, qui est dominante. On nous demande non pas d'habiter poétiquement le monde, on nous demande de l'habiter économiquement, il me semble, non? On nous demande de l'habiter efficacement, dans la production, etc. Mais ça nous amène dans le mur. Donc, effectivement, le propos de la poésie, c'est, encore une fois, à travers les poèmes, parce qu'on entend ce que je dis dans les poèmes, de proposer à chacun un autre argument de sa vie, de son existence personnelle. Encore une fois, on n'est pas des rêveurs, les poètes sont lucides, il y a bien une part du quotidien et la part concrète du monde à vivre, et ça suppose des contraintes, des nécessités, ça suppose effectivement de gagner sa vie, de se soigner, etc. Enfin, bien sûr que les poètes ne nient pas, ils sont pleins de cœur d'ailleurs dans ce réel-là aussi. Moi je connais plein de poètes qui sont actifs, qui agissent en militant ou qui construisent des choses, enfin voilà. Pourquoi pas des entreprises, j'en connais. Mais la question, c'est que la vie intérieure, c'est celle qui nous gouverne, n'est-ce pas, et qui gouverne notre pensée du monde, elle peut être autre. Et elle peut nous permettre justement de ne pas être seulement dans le plan immédiatement utilitaire de l'existence, ce qu'on appelle le pragmatique, voilà, ne pas être asservi à ça, de ne pas être seulement des fonctions, des mécanismes. Or, le monde dans lequel nous vivons, dont tu parlais, Christian, est un monde qui nous assigne à des fonctions, à des rôles, qui nous interdit, ce monde-là nous interdit de sortir de nos fonctions, de nos rôles. On nous définit de plus en plus, on nous enferme dans des contours, dans des registres. Chacun devait être enfermé dans la catégorie des jeunes, du quatrième âge, du troisième âge, ou des dépendants, ou des, vous savez, les gens dépendants, ou je sais pas, on n'arrête pas de créer des sortes de concepts comme ça dans lesquels on nous enferme. Et la poésie a toujours été libertaire, tu vois, vu là. Elle propose à chacun de sortir des contours qu'on lui assigne, des sens qu'on lui assigne. Et parce que la vie est comme ça. La vie, elle ne se laisse pas enfermer dans des définitions, des catégories, des segments, des fragments. La vie, elle est un tout multiple, dynamique, et tout se répond, en quelque sorte. Les contradictions sont présentes dans la vie. Donc la poésie nous dit, vivez intensément au risque, oui, de la contradiction, au péril du sens incertain, au péril de l'inconnu, mais c'est comme ça qu'on est intensément vivant. Et vous voyez, j'en arrive maintenant à parler du titre de Levez-vous du tombeau, je parle d'être intensément vivant. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, le monde dans lequel on vit, plus que jamais, mais ça a toujours été le cas, de la contrainte sociale, j'ai dit des nécessités quotidiennes, etc., nous fait, d'une certaine façon, nous fait vivre sans profiter de la vie. C'est-à-dire on peut vivre, passer son existence et passer à côté de son existence, à passer à côté de l'intensité de la vie. Or, nous avons tous en nous des ressources extraordinaires de vie, d'invention, de création, de curiosité, d'appétit du monde et des choses. Mais c'est sans arrêt brimé, sans arrêt contraint, si je pourrais dire refoulé même. Et du coup, la poésie est un appel à l'ouverture, un appel à la vie pleine et entière. Quand je dis « levez-vous du tombeau », je m'adresse bien à nous tous. Je m'inclus aussi là-dedans, je peux m'adresser à moi l'invective parfois, c'est une sorte d'invective ou d'appel, c'est-à-dire parce qu'on est tous tentés par cet endormissement qui est une sorte de mort. Et il s'agit bien d'une mort morale, bien sûr, dont je parle. C'est-à-dire quand je dis « levez-vous du tombeau », c'est un appel à la résurrection, qui est aussi une insurrection du coup, mais une résurrection avant la mort. Vous voyez, moi je ne suis pas croyant, je ne crois pas à la résurrection après la mort, je me préoccupe de la vie aujourd'hui. Et je me dis, mais attention, notre vie, elle est liée à moi, je le dis à tous, tout ce qu'on nous fait vivre aujourd'hui, c'est des ersatz de vie, en quelque sorte, c'est des leurres, et on passe à côté de ce qui est la vie profonde, qui est vécue comme les poètes, comme Rimbaud ou Van Gogh ou je sais pas, ou Mozart l'ont vécu, c'est-à-dire dans l'intensité de l'invention, de la création, etc. Tout le monde peut vivre dans cette intensité-là, et dans un amour, dans une amitié, dans un moment heureux ou étonnant de découverte d'un pays, d'un paysage ou d'un arbre, ou je sais pas quoi. Il y a mille occasions, opportunités de tout d'un coup sortir de nos habitudes, de nos ornières, de nos fonctions et de nos mécanismes pour tout d'un coup se trouver librement confronté à l'effervescence de la vie. Voilà ce que je veux dire. Levez-vous du tombeau, c'est-à-dire ne passons pas à côté de notre existence. J'ai mis en exergue, mon livre il comporte plusieurs parties, et il y a une partie qui s'intitule Levez-vous du tombeau, et j'ai mis en exergue une phrase de l'américain Thoreau, un auteur américain du 19e siècle, qui a été un des visionnaires, un des premiers grands écologistes, si vous voulez, qui déjà a alerté sur les dangers de la civilisation industrielle, etc. Et Thoreau, il dit, voilà, l'homme, quel qu'il soit, qui ne vit pas, qui n'a pas l'âge de son souffle, ne vit qu'une mort morale. Et je pense que c'est contre cette mort morale qu'il faut se battre. Voilà, cette mort de la vie intérieure, en quelque sorte, de nos désirs, de nos aspirations, etc. Et je crois que depuis toujours, la poésie est ce qui souffle sur la braise de notre vie, qui nous rend incandescents, puisque Christian, tu citais cette phrase où je parlais de la poésie comme incandescence dans la nuit. Mais pour chacun d'entre nous, la poésie est l'argument du feu, c'est-à-dire quand on est ardent, n'est-ce pas? Et je crois que c'est un appel à être ardent, à vivre dans l'ardeur.
Alors, il y a en exergue cette phrase aussi, avant les trois parties du livre, ce poème, il va falloir enfin que la poésie gouverne.
Oui.
Même provocation,
n'est-ce pas?
Oui.
Et quand je dis il va falloir que la poésie gouverne, évidemment je le fais avec, j'écris ça en souriant, parce que je sais très bien que ça surprend tout le monde, mais quand je dis ça, évidemment, je ne dis pas que la poésie va proposer des candidats, un programme et participer aux élections, ni les poètes. Il s'agit de gouverner au sens premier du terme, de gouvernail, en fait, n'est-ce pas? On parlait d'ailleurs, Montaigne parlait du gouvernement de soi-même. Hein, Montaigne et les humanistes parlaient volontiers de ça. On se gouverne soi-même. Hein. On dit d'ailleurs, pour ta gouverne, je te dis ceci. C'est-à-dire, et on a un gouvernail intérieur. Et souvent, on ne tient pas ce gouvernail. D'autres le tiennent pour nous. Ou alors, il va à la dérive. Eh bien, la poésie nous propose de gouverner, nous propose ce gouvernail, c'est-à-dire une orientation et un sens. François Cheng, vous connaissez François Cheng, ce grand poète franco-chinois, hein.
Oui.
François Cheng, l'autre jour, je l'écoutais à Paris parler de la beauté, d'ailleurs, et de la poésie, et il disait cette chose formidable. Il nous rappelait ceci, c'est que le mot sens en français, lui, comme il est chinois, il connaît très très bien le sens des mots français. Et il disait, le mot sens en français est un mot dont on ne trouve pas l'équivalent dans d'autres langues, parce que il a trois significations. Le mot sens, il signifie l'essence de la sensualité, les cinq sens, le goût, la saveur, l'odorat, etc. Il signifie la direction, dans quel sens on va, l'orientation, et il signifie aussi la signification, le sens de quelque chose. Et donc c'est en fond les questions les essentielles que pose chaque poème, c'est où va la direction, où je vais, n'est-ce pas ? Quelle direction prendre ? Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça, la question de la signification ? Mais les poètes le font toujours incarner, c'est-à-dire dans le sensible. C'est pas de l'abstraction, c'est pas de la question conceptuelle, philosophique, qui crée des systèmes, c'est très concrètement ces questions posées dans le cheminement de l'existence au plus près des êtres et des choses.
Alors, le livre est composé de trois parties. Les sept cordes de la lyre, Levez-vous du tombeau, et puis la théorie des ardents. Je crois que dans les propos que tu viens de tenir, on a à peu près compris donc, ce qu'était la théorie des ardents. Il y a ensuite un épilogue avec une référence à Aimé Césaire. Hein,
salut Aimé Césaire.
Voilà, saluer Aimé Césaire. Et tu as cité Taureau. Or, je voudrais simplement dire, c'est une petite aparté, que les éditions, je crois, la Table Ronde viennent de reprendre l'œuvre de Taureau et que nous aurons ici le plaisir de faire une émission avec son traducteur, là, Gilles Boeuf.
Ah oui, très bien.
Taureau, Gilles Boeuf, c'est bien de, voilà, ouais. de reprendre ça. Alors, les sept cordes de la lyre, il y a la corde de l'oiseau, la corde de l'arbre, la corde du silence, la corde des rivières, la corde des vents, la corde du temps, la corde de l'ombre. Alors, quelles sont ces cordes ?
Ah, alors, évidemment, les sept cordes de la lyre, c'est la lyre d'Orphée, hein, et c'est affirmer la poésie aussi dans la tradition d'Orphée, c'est-à-dire aussi dans la préoccupation qui est la nôtre aujourd'hui, le rapport de nous, de l'homme, avec la nature, puisque c'est ça Orphée, c'est celui qui a un dialogue privilégié avec les animaux, avec les êtres, les choses, il fait ça, son chant fait bouger les rochers, émeut les arbres, etc. Et d'abord, en faisant ce texte, d'abord cette partie qui s'intitule « Les secours de la lyre », je revendique le lyrisme, c'est-à-dire une poésie lyrique, poésie qui chante, et une poésie qui humaniste, d'une certaine façon, qui a accordé au battement du cœur. Voilà, et moi je revendique l'émotion, je revendique cette part-là, affective, humaine de l'homme, ça, et sa fragilité et autant que son désir. Donc cette partie dit ça, et puis évidemment il y a ce rapport à la nature qu'on entend, les cordes, la corde de l'oiseau, de l'arbre, etc., parce que je suis un homme de mon temps, et je rappelle ici que la poésie, avant même qu'on parle d'écologie ou de sauver la nature, les poètes depuis toujours sont dans ce dialogue premier, privilégié et jamais interrompu avec les éléments naturels premiers. Il n'y a pas, depuis remonter à l'antiquité grecque ou remonter aux poètes les plus anciens de Sumer il y a des milliers d'années, ils parlent toujours de l'univers et parfois même ils l'investissent de divinité, n'est-ce pas ? Pensez aux divinités de l'arbre, de l'eau, de la rivière, etc. Enfin voilà. Et donc, il y a un rapport profond existentiel à la nature que petit à petit, au fur et à mesure des siècles, nous avons perdu. Et la poésie, elle, l'a toujours revendiqué. Elle a toujours dit l'humain, le mot vient de humus, c'est-à-dire l'homme est lié à la terre, n'est-ce pas ? Il est lié aux éléments naturels. Il est, je le dis dans un poème, qu'une chose comme une autre, en fait, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il ne doit pas perdre ce contact. Non pas un contact de domination, mais ce contact de partage avec le monde dans lequel il vit. Alors, ce qu'aujourd'hui on redécouvre à travers l'écologie, la défense des animaux, etc., mais les poètes ont toujours dit ça. Il n'y a pas de salut s'il n'y a pas une intelligence de la nature et du monde dans lequel on est inscrit. On doit vivre avec l'arbre, le vent, le ciel, etc., et pas contre. Or, on a été des prédateurs pendant peut-être 3000 ans. Dès qu'on a inventé la technique et hélas, formidablement, on a inventé des choses extraordinaires avec la technique, mais hélas, on s'est laissé aller à la pente mauvaise de ça, c'est-à-dire ce qui nous coupe de l'élément naturel. Et on arrive dans, vous savez très bien, après, on n'a pas attendu l'informatique ou le numérique pour créer un monde artificiel. C'est-à-dire que la technique tend à nous couper de la réalité, puisqu'elle crée des intermédiaires avec le réel. Alors je dis, moi je ne suis pas non plus un béotien ou un obscurantiste, je trouve que c'est beau, la technique, l'invention, et on voit bien comment ça peut servir l'existence de beaucoup. Donc évidemment qu'il ne s'agit pas de dénier l'importance de ça, il s'agit simplement de dire qu'on ne devrait jamais oublier qu'il y a un danger. Ça, voilà, c'est le fameux « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », qui est quand même un grand précepte humaniste, n'est-ce pas? Et nous avons tellement aujourd'hui absolutisé tout ce qui est du domaine de la technologie, donc de la technique supérieure en quelque sorte, et de maintenant du numérique, etc., qu'on se perd là-dedans. Il ne s'agit pas de le dénier, il ne s'agit pas de s'en passer, il s'agit de le relativiser. Et de penser que c'est toujours un argument second d'existence. L'argument premier, il est toujours le même depuis que l'homme existe, c'est son corps, son cœur, son regard, ses mains tendues et le monde dans lequel il vit. C'est ça le fondement de l'humain. Et le reste ne vient qu'après. Or aujourd'hui, on subordonne l'humain, et c'est tout ce que je viens de dire d'ailleurs, aussi bien le corps, etc., à un primat qui est l'efficacité, à des leurres aussi, à tout ce qui relève du plus que donne la technique et la technologie. Eh bien, moi je dis que ça, c'est aller contre l'humain. Voilà, c'est un anti-humanisme d'une certaine façon. Donc cette partie lyrique sur les cordes de la lyre, nous rappelle qu'au fond, la première lyre, la première corde de la lyre, j'aurais pu le dire, mais on l'entend bien, c'est notre cœur, quoi. C'est le cœur battant de chaque humain. Et c'est cette corde-là dont il ne faut jamais oublier le son, puisque c'est à partir de ce son-là que tout doit se penser.
Ce qui me semblait important aussi, c'est de rappeler qu'il y a une poésie qui est une poésie, la tienne en particulier, hein, qui est une poésie lyrique. Qui reste dans cette tradition lyrique de l'émotion et qui est immédiatement quand même accessible.
Voilà. Je le souhaite en tout cas, je pense qu'elle l'est plus aujourd'hui, même en vieillissant, en grandissant, en poésie, on se simplifie, s'allège en quelque sorte. On est souvent jeune poète, comme tous les jeunes poètes, hein, c'est vrai de tous les poètes, pas moi seulement, quand on est jeune, on est fasciné par le pouvoir du langage, et on a tendance parfois à en faire trop dans le langage. Et puis petit à petit, on met les moyens qu'on s'est construit, les moyens du langage, on les met au service d'une chose plus importante. Et donc, moi, ma poésie, je cherche à ce qu'elle soit le plus possible. Bien sûr, elle est savante, parce que la poésie, toute poésie est savante. Toute poésie, même la poésie populaire est savante, puisqu'elle accorde une importance à la langue qu'on ne lui accorde pas d'habitude. Elle a donc un savoir de la langue inattendu. Donc, toute poésie est savante. Mais la question, pour moi, c'est qu'elle reste une parole adressée. Elle doit rester une parole adressée à celui à qui elle s'adresse, qui est évidemment celui qu'elle vit, c'est qui est tout le monde en fait, tout humain en face, n'est-ce pas, possiblement en tout cas. On parle toujours, concrètement, un poète parle toujours à un homme ou une femme, soit à travers un interlocuteur privilégié, la femme qu'il aime ou l'ami ou je sais pas quoi, mais à travers ça il parle à tous les hommes, je crois. Et l'important pour moi, c'est que la parole poétique ne soit pas seulement un effet de langage, un jeu de langage, une sorte de virtuosité dans le maniement de la langue. Tout le monde, avec un peu de pratique, en est capable de ça. C'est qu'elle reste une parole qui prend des risques, justement. Une parole qui s'adresse à l'autre et qui parle au plus profond de ce qui nous importe tous. Le sens de l'existence, le désir, l'inquiétude, la peur, la joie, ce qui fait le matériau premier de notre existence, c'est notre ADN, ça. Donc la parole, moi j'entends qu'elle soit toujours une parole que quelqu'un l'entende comme si on lui parlait, quoi. Voilà, qu'il y ait une conversation derrière. Donc il faut du rythme, donc il faut de l'oralité, donc il faut on ne peut pas dire mieux qu'une adresse, ouais, je crois. Et j'essaie en tout cas que ma poésie, même si elle pose des questions, elle Elle soulève des questions importantes, mais tout le monde les vit, les questions importantes, même un enfant de 5 ans. Hein. Mais même si elle pose des questions importantes, elle reste le plus accessible possible, d'ailleurs, pas forcément par le concept, hein, puisque la poésie, elle pense concrètement, mais par le sensible, elle reste accessible à tous.
Les images aussi, dans
Et l'image,
les images.
exactement. Oui, Christian, je crois que pour moi, en tout cas, et c'est la leçon de, par exemple, aussi bien Victor Hugo que de Éluard, par exemple, hein, qui sont des grands créateurs d'images et de métaphores. Mais même Homère en est déjà grand, n'est-ce pas? L'Odyssée, c'est plein de ça. L'image est une manière formidable de penser le monde intuitivement. Et le penser de façon complexe et de rendre justice à la complexité de la réalité que nous vivons. Mais l'image, elle est immédiatement sensible et compréhensible, librement compréhensible. Elle n'a pas d'explication et d'interprétation univoque par tous. On peut dire, il y a des images de Paul Éluard, je sais pas, d'Aragon, ou de, je sais pas, je dirais, pourquoi pas de Bonnefoy ou de Jacoté, qui sont immédiatement compréhensibles par un enfant de 4 ans à l'écoute. Et il n'y a pas besoin de lui expliquer. Il sent à travers l'image ce que ça ouvre du réel. Parce que le propre de l'image, c'est ouvrir notre compréhension et notre sensation et notre perception de la réalité. L'image, à chaque fois, elle nous ouvre le monde au-delà de ce qu'on voit immédiatement. Vous savez ce que disait Odysseus, Elitis, le grand poète grec qui a eu le prix Nobel au XXe siècle? Elitis, il disait, là où la montagne dépasse du mot qui la désigne, se trouve un poète. Je trouve ça magnifique. Là où la montagne dépasse du mot qui la désigne, se trouve un poète. C'est-à-dire que le poète utilise toujours le mot pour qu'il dise plus que ce qu'il dit bêtement, ordinairement. Et tout d'un coup apparaît dans le vers du poète, l'image du poète qui parle de la montagne, apparaît vraiment la montagne, la sensation de la montagne, l'immensité de la montagne, l'effroi autant que l'émerveillement, tout ça apparaît, qui n'apparaît pas dans le seul mot montagne, qui désigne très concrètement un fait de relief particulier, géologie, je sais pas quoi. Le poète, il va tout d'un coup faire advenir par l'image toute la part manquante du langage ordinaire. Voilà la force de l'image.
Alors justement, on va prendre une image, tout à fait dans le début de ce livre, page 7, hein, dans ce que il va falloir enfin que la poésie gouverne, il y a cette image de la pensée. La pensée est tantôt cheval des steppes, tantôt poignée de mésanges jetée au vent. On va te demander, si tu veux bien, Jean-Pierre, de nous lire ce texte.
Oui, je vais lire, c'est le premier texte du je lis tout le poème.
Oui, s'il te plaît, oui.
Volontiers, volontiers. Il va falloir enfin que la poésie gouverne, elle qui n'a ni pouvoir ni assurance, elle dont la pensée est tantôt cheval de steppe, tantôt poignée de mésanges jetée au vent. Il va falloir s'attabler à son désordre, étant donné les ordres, désordre hautement désirable, seule liberté qui ne soit pas soluble dans l'excuse. Assez d'assigner toutes choses à nos desseins, arbres, rochers, pluies, abeilles et rivières. Il s'agit de les libérer de l'idée, et selon la loi d'Orphée, de reconnaître en elles les maîtresses d'un champ que nous ignorons. À ce point de l'histoire, plus de doute, nous sommes les violents. La vanité interdisant l'amour, nous n'avons fait que saisir sans étreindre. Seul le poète n'est pas l'usurier de la vie. Il donne sans rétribution, mais il ne donne que ce qui ne se possède pas. Il va falloir combattre des mains, des yeux, des lèvres, la laideur, laideur d'actes et d'intentions dont sont la cause la puérile peur du vide et toutes fins qui ne sont pas d'amour. Le poète n'a que des rébellions amoureuses, c'est-à-dire sans égard pour les chaises bavardes. Il n'est pas même l'ennemi de ses ennemis, parce qu'il ne mange pas de leur pain amer. Ses colères souvent sont joyeuses et rondes, comme clairières dans la forêt. Tuer le poète, ô Lorca, la poésie renaît dans le soleil qui suit. Sous le gouvernement de la poésie, la laideur, bien sûr, comme toujours, aurait sa part. On n'échappe jamais tout à fait aux mollesses du cœur. Mais la vie, simplement, serait à chacun le seul objet de son désir. Là, ce poème est un peu manifeste,
Oui,
je tiens.
tout à fait. Tout à fait. Très beau poème, hein. Alors, on avait parlé des différentes parties du livre, dont les sept cordes de la lyre, hein. La deuxième partie, c'est Levez-vous du tombeau. On pourrait peut-être écouter cette voix de Levez-vous du tombeau, tout simplement dans le premier poème, si tu veux bien, Tout ce qui
Oui,
nous
très
appelle d'une
volontiers.
voix d'or, page 27.
Oui, je vais le lire très volontiers. Tout ce qui nous appelle d'une voix d'or, de la couleur du rire et des arbres rouillés par l'automne, bouche éprise de soleil, d'où venus les mots les plus simples, sont flèches de lumière dans la nuit épaisse du langage. Oh, cela, entendons-le parfois, lâchant les outils quotidiens et les nécessités aux mains de glace, comme on entend stupéfait le phrasé d'un chant où la vague se brise, ou comme un malade dans son lit entend le froissement d'ailes d'un oiseau qui rend au cœur noué sa mesure légère. Oh, fragile, mais fragile est l'herbe nouvelle qui repousse l'hiver. Vous de grâce, qui dormez dans un sommeil à triple tour, qui n'avez plus d'oreilles que pour votre sang captif, et dont les yeux absurdement ne voient que leurs paupières, souvenez-vous des visiteurs de l'aube, les grands perdants du jeu de dupes des pouvoirs, mes princes lumineux du chant et du vertige. Un jour, rien qu'un jour, une heure seulement, levez-vous du tombeau et avec eux, dans une joie brutale, chevauchez les vents.
Dire que ça aussi, c'est un manifeste, quand même.
Oui, toujours un peu, hein. Et toujours l'idée quand même que ces poèmes ne parlent pas pour rien, quoi. Moi, je suis conscient, parce que je suis un homme très, très à l'écoute de ce qui se passe partout dans le monde, je suis très conscient d'une urgence aujourd'hui. Le monde va mal, quoi, non, quand même. Les grands déséquilibres, pas seulement au niveau social chez nous, mais partout, les grands déséquilibres sont évidents. On voit un 21e siècle qui arrive avec de grandes menaces, non? Le problème de l'eau va être un problème terrible. Les problèmes des migrations, c'est rien aujourd'hui. On s'arrache les cheveux pour quelques milliers de migrants, mais c'est des millions de migrations qui de millions de migrants qu'il y aura au XXIe siècle, si on en croit les spécialistes. Moi, je lis ça. Donc la poésie, pour moi, il y a urgence à ce qu'elle parle de ça, à ce qu'elle parle du monde. Elle peut pas seulement faire chanter agréablement un clair petit instant de son existence personnelle. Donc je voudrais que ma poésie, elle concerne la préoccupation de tous. Et moi, je suis qu'un être parmi les autres qui vit dans son temps, qui est à la fois plein d'envie et d'amour de la vie, parce que je suis comme tout le monde, je crois, j'adore la vie, comme beaucoup en tout cas. Elle me passionne, je ne m'en lasse pas à mon âge, n'est-ce pas, de découvrir, voilà, d'être surpris. Et en même temps, je suis comme tout le monde dans une grande inquiétude, voilà. Mais je crois qu'il ne faut pas s'en tenir à ce malaise intellectuel et moral dans lequel on est, et qu'il faut se dresser. J'ai parlé tout à l'heure de résurrection, qui est aussi une insurrection. Et insurrection, ça veut dire se mettre debout, hein. Tout ça vient de surgir, de s'enguerrer en latin, qui veut dire se mettre debout, se dresser. Eh bien, je pense que la poésie, c'est une manière de se dresser en conscience d'abord. Une fois qu'on s'est dressé en conscience, l'essentiel est fait. Et on ne peut pas se laisser abattre. On veut leur sens propre. On peut pas baisser la tête en disant c'est foutu. D'abord, moi, je rencontre beaucoup de jeunes. Et on peut pas dire aux jeunes, bah non, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. On a cassé les choses, on a cassé le monde. On sortira pas des déséquilibres sociaux, politiques, de la pauvreté ou de la faim ou du malheur de certains peuples. Ça sera toujours comme ça. Eh bien, moi, j'ai dit non. Voilà. Jusqu'à la fin de mes jours, je dis non. Je dis, pensons, essayons toujours, c'est notre dignité d'homme, d'objecter à ça, d'objecter à ce nihilisme dont je parlais ou à cette soumission. Et dressons-nous. Dressons-nous en conscience d'abord et tentons tout ce que nous pouvons tenter. Et moi, je vois plein de gens qui tentent des choses, et des jeunes notamment. Je rencontre beaucoup de jeunes qui, d'ailleurs, Je vous assure, c'est vrai, beaucoup plus de jeunes qu'avant qui s'intéressent à la poésie, qui lisent des poètes, qui ont envie de vivre en poète. Je connais une jeune femme qui a fait réussi brillamment Sciences Po et qui est partie, qui a tout laissé tomber après avoir réussi brillamment et qui était partie élever des moutons dans les Alpes, je crois, pour vivre autre chose. Donc, les jeunes, on les voit se dresser, regarder ces manifestations pour le climat. C'est aussi une manière déjà d'insurrection dans la conscience. Donc, il faut participer de cette jeunesse du monde. Et la poésie, depuis toujours, est une jeunesse du regard, une jeunesse du cœur. Elle ne se laisse pas aller à la lassitude, au désabusement, à la fatigue, etc. On n'a pas le temps d'être fatigué. Voilà ce que je pense.
La poésie, c'est aussi reconnaître la beauté du monde, hein.
Oui, bien sûr, et je crois à ça. Je crois que cette année, le thème du Printemps des Poètes était le thème de la beauté. Je trouve que c'était une très bonne idée. C'est ma succès, comme on dit, ou succès, cerise, je sais pas comment on dit, celle qui m'a succédé à la direction du Printemps qui a choisi ce thème. Et c'est un très beau thème. D'ailleurs, moi, je n'avais pas écrit pour rien Poétique de la beauté. Si, je crois simplement qu'il faut donner au mot beauté une charge dynamique, pas seulement ce qu'on en dit d'habitude un peu mollement, quoi, la beauté, ce qui charme l'œil. Non, la beauté du geste, par exemple, c'est quelque chose, non? Et la beauté du cœur, la beauté de l'âme, la beauté évidemment, la beauté des paysages. Mais il y a mille façons de la beauté. Et je dis que le mot beauté est le nom de beaucoup d'autres choses. Je dis de la fraternité, de la bonté, de l'effort, de l'effort aussi, de la bonté, c'est toujours un effort de passer par-dessus son égoïsme et tout ça. Et c'est beau, ça, non? C'est beau, je crois. Donc la beauté, elle est à la fois présente et donnée. Et par exemple, effectivement, un matin qui se lève, le matin à la fenêtre, c'est une beauté donnée. Mais il y a aussi la beauté qu'on conquiert. Et la beauté qu'on conquiert ou qu'on fait soi-même quand on a des gestes justes. Un geste juste, c'est une beauté. Voilà. Je sais pas, une main tendue, l'oreille tendue à quelqu'un qui en a besoin, etc. Ce sont des beaux gestes. Donc on a en nous cette capacité de la beauté, à être comme on disait autrefois, de belles personnes. Vous voyez? Je suis pas
Oui,
bête,
belle
cette
personne.
expression, au fond. Et parfois, moi-même, je suis une moche personne. Je peux être indifférent, je peux être égoïste, je me le reconnais, fatigué, quoi, comme tout le monde. On donne pas toujours de l'argent aux gens qu'on croise par terre dans la rue, quoi, voilà, bon. Ou même un regard, d'ailleurs, plus que l'argent. Donc, faut faire un effort. Je pense, par exemple, que le jour où on jette un regard à quelqu'un qui est allongé dans la rue, rien que le regarder dans les yeux, lui dire bonjour avec un sourire, ça, c'est un geste, un beau geste, non? Voilà. Et cette beauté, elle signifie quelque chose. Elle signifie de l'humain, de la restitution de l'humain. C'est peut-être plus important encore que les sous. C'est-à-dire que c'est du lien humain qu'on recrée là où il est perdu. C'est ça aussi la beauté, non? Vous voyez, c'est pas seulement la belle forme.
Justement, on va écouter dans ce poème, ils ont demandé à quoi reconnaîtront la beauté sur les chemins. Page 29, si tu veux bien nous le lire.
Oui, bien sûr, oui. Alors, ils ont demandé à quoi reconnaîtrons-nous la beauté sur les chemins? Il a dit, toute beauté a la forme du mystère qu'elle énonce, comme la robe épouse le corps qui vit en elle. Or, si constant soit le mystère en tout, il est toujours inquiet. Voilà pourquoi toute beauté est inquiète. Ils ont demandé encore, de quelle sorte de mystère parlez-vous? Il a dit, quelque chose comme un soudain désir de neige dans l'été, ou la saveur sans oubli du premier baiser. L'un a répondu, mais ce sont là des mystères trop humains, la beauté par bonheur est plus vaste que l'homme. Il a dit, la fleur n'a-t-elle jamais de désir de neige en été? Les pierres sont-elles sans mémoire? Un autre a rétorqué, mais la beauté n'est pas un sentiment. Il a dit, mais le sentiment n'est pas ce que vous croyez. Ce jaillissement muet que vous appelez émotion, il est d'abord dans les choses. Et ils ont ri. Comment savez-vous une chose pareille? Il a dit, je ne sais rien, mais je suis une chose comme une autre. Voilà ce poème qui essaie de réfléchir un peu avec humour aussi à ce qu'est la beauté.
On va aborder, puisque le temps passe, peut-être la partie suivante, avec dans cette partie la théorie des ardents, où on va sur les eaux du Danube, on va se promener à l'université de Tancan. On va aborder un problème important dans la poésie, un thème important de la poésie, je crois, d'aujourd'hui, c'est la poésie aussi du lieu.
Du lieu, hein?
Du lieu.
Oui.
Camus disait déjà, il y a longtemps, hein, dans La pensée remonte les fleuves, disait, le monde bourgeois ne marque plus son attachement à son lieu d'origine que par un certain goût extérieur du pittoresque et un certain attachement encore au reste d'un folklore local qu'il se donne parfois en spectacle, plus sensible aux effets qu'aux causes. Voilà. Et je crois que la poésie et la géopoétique, par exemple avec Ennis White, est en train de justement de s'insurger contre ça et de remettre le lieu peut-être au centre de la pensée aussi du poète
Oui,
et de
c'est une juste
réhabiliter le
question.
lieu
Oui.
véritablement. Hein,
Oui.
comme c'est aussi une réhabilitation du monde, ça va dans le même sens que ce que tu disais tout à l'heure. Hein.
Oui, je crois exactement. Ben oui, parce que ce que je disais tout à l'heure, au fond, on pourrait le résumer d'une formule. Nous tendons à être hors sol, n'est-ce pas? Et justement, à être privés de l'inscription concrète dans le monde. Et les gens ont besoin d'un lieu. Il y a un retour au lieu qu'on voit, par exemple, dans le besoin d'aller dans les promenades, de se faire des jardins, de retrouver des lieux d'attachement, etc. De retrouver des lieux premiers qui sont des montagnes, des mers, des campagnes qu'on a aimées, etc. Et c'est parce que le monde contemporain, comme je le dis, nous arrache à ça. On traverse le monde en TGV, protégé comme dans un TGV, on traverse des paysages comme ça. Et donc, typiquement, quand on va à toute vitesse, on n'a pas d'arrêt. Si on n'a pas d'arrêt, on n'a pas de lieu. D'accord? Un lieu, c'est forcément ne se donne que dans l'arrêt. Et donc, comme on est dans l'agitation et qu'on court partout, on surfe sur le réel, on n'a plus de vraie inscription dans le réel. Et nous avons besoin de ça. Donc, effectivement, cet éloge du lieu est essentiel aujourd'hui. C'est reprendre pied. Je disais, on était hors sol, il s'agit de reprendre pied. Et donc, comme on disait que certains avaient le pied marin, il faudrait dire qu'il nous faut le pied terrestre. Il faut retrouver le pied terrestre. C'est-à-dire être des deux pieds dans l'humus dont je parlais tout à l'heure, de retrouver cette origine-là. Ce qui ne nous empêche pas, encore une fois, de vivre le reste, etc. Mais au lieu d'être toujours dans le smartphone, on peut avoir le smartphone, j'en ai aussi, mais on peut être dans le smartphone et l'oublier de temps en temps et retrouver le vrai réel, qui n'est pas celui du smartphone, qui est un réel fantasmé, numérisé, etc., un écho du réel. Et donc, le lieu est important pour ça. Et dans cette partie-là, effectivement, tous les poèmes sont liés à un lieu que j'ai traversé, que j'ai. Et ces lieux ont aussi une résonance parce qu'ils sont habités. Chaque fois, le lieu est lié à une
Une
personne.
personne, voilà, c'est ça.
Voilà.
Il y a les deux.
Ça peut être, en fait, c'est des gens que j'ai rencontrés qui sont
Des
des
livres,
poètes, des peintres, des comédiens.
Dans les quelques minutes qui nous restent,
Oui,
je
pardon.
voudrais te demander, je pense qu'on aura le temps, c'est ton poème qui est assez long, bien sûr, c'est ton salut à Aimé Césaire, on va finir là-dessus. Si tu le veux bien, je pense qu'on aura juste le temps. Et je voulais simplement, donc on va terminer sur ce poème, et je voulais dire que, donc, Jean-Pierre Siméon, tu as été élu maître ès-jeux d'une académie qui nous est chère ici, c'est l'Académie des Jeux Floraux, la plus vieille académie d'Europe, et qu'à ce titre, nous aurions dû te voir le 3 mai, qui est la fête des fleurs. Comme tu ne seras pas là, tu es en voyage,
Oui,
nous
ben
aurons.
j'interviens
Voilà.
ailleurs. Oui.
Oui, donc nous aurons le plaisir de t'accueillir à Toulouse. Tu nous parleras lors d'une conférence que tu donneras sur la poésie et sur de l'ensemble de tes œuvres. Nous aurons le plaisir donc de te remettre ces lettres de maîtrise. Voilà ce que je voulais dire.
D'accord, et merci beaucoup, hein.
Et nous en sommes très honorés et tout à fait enchantés. Voilà, si tu le veux bien, maintenant nous allons nous quitter. Sur la lecture de ce poème, Salut à toi, Aimé Césaire, qui est un poème un peu long, mais je pense qu'il
Oui,
mérite.
une sorte de grand appel
Voilà.
à la vie à travers
Voilà.
ce que disait lui Aimé Césaire, qu'il y ait le rêve et l'action. Alors voilà, je vous dis ce poème. Salut à toi. Aimé Césaire, salut à toi, salut. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi comme jamais. Ici, aujourd'hui, dans notre îlot de détresse fade, en ce début de siècle qui devrait être un début, donc, un pas de vigueur, un œil ouvert à tous les commencements. Nous sommes des finissants harassés, fatigués avant le pas, arc-boutés contre le vent d'épreuves noires, du sang versé, de la pensée blessée, des liens perdus, des soleils éclipsés. Tu disais, la torpeur, le torpide, cela m'écrase. Nous sommes les écrasés. Tu disais, dans la voix d'un rebelle qui parlait quand les chiens se taisaient, nous sommes aveugles, aveugles par la grâce de Dieu et de la peur. Et tu ne vois rien parmi l'herbe nouvelle? Nous ne voyons rien, nous avons peur. Nous avons besoin de toi, aimé Césaire, nous avons besoin de toi comme jamais, de ta voix de vigueur, de ta voix et de ta parole éruptive qui monte comme une lave dans la mer. Nous avons besoin des potées arrachées dans la bourrasque, de la langue révoltée qui met le feu dans la gorge, de rythmes hors d'haleine, de mots gorgés d'arbres, de soleil brisé et du vent des mornes, d'une parole charnelle baignée dans les vagues, lestée de pierres abruptes et qui porte dans son élan vertical la ténèbre, l'oiseau ivre et la mort, l'embâcle et des débâcles crépitantes, les refus nécessaire et la grande levée du jour dans les bouches et les fleurs non pareilles. Il nous faut revenir à toi, aimé Césaire, retrouver quand tout tombe, retrouver le langage qui monte, qui érige un désir au-delà des larmes, dans le chant, dans la soif, dans la saveur et la couleur abondante. Tu disais, j'habite une soif irrémédiable. C'était dire, j'habite la poésie. Et tu disais ainsi la raison du malheur, la vraie raison de nos malheurs. Nous n'habitons plus ni le corps, ni l'âme, ni la soif. Nous n'habitons plus la lutte que tu disais entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Nous n'habitons plus qu'une lucidité désespérée, sans plus d'espoir donc ni de ferveur. Nous n'habitons plus la parole. Demeure désormais sans fenêtre, sans l'œil du serpent sous la table, ni la rumeur d'abeilles dans les murs. Non, décidément, nous n'habitons plus. Alors, nous avons besoin de toi, aimé Césaire. Oui, nous avons besoin de toi plus que jamais, comme de tous ceux de ta trempe. Nous avons besoin du poète irrémédiable, qui, dans son hymne affranchi, affranchit d'un coup l'âme humaine de ses esclavages. Il est temps, il est grand temps de faire retour à la poésie, notre pays natal. Les peuples naissent avec la poésie, disais-tu. Eh bien, ils meurent, cela crève les yeux d'avoir perdu la poésie. La poésie, arme miraculeuse contre la mort et ses mille façons invisibles et ordinaires dans la vie même. La poésie que tu disais conquête par la révolte de la part franche où se susciter soi-même. Oui, nous avons besoin plus que jamais, aimé Césaire, de ta foi persévérante dans la poésie. Parole fondatrice et indocile comme mangrove qui réconcilie le rêve et l'action, le rêve et la réalité. Et donc ainsi, seul ferment d'une politique à même l'herbe et la ronce, qui n'oublie pas l'humain, la famille humaine et son champ profond. Ce que nous te devons, aimé Césaire, est innombrable, et nous montre le chemin des métaphores où tu disais qu'il faut que l'on marche. Soyons donc avec toi, encore et encore, les fils du volcan. Nous crierons comme toi jusqu'à la danse, et qu'un rire nous coure jusque dans les veines, et que, rebelles, des violettes, des anémones se lèvent à chaque pas de notre sang. Salut à toi, aimé Césaire, et gratitude. Encore et encore, nous frapperons le sol du pied nu de nos voix. Nous sommes définitivement avec toi sous la pluie des chenilles du côté de l'espérance.
Merci voilà. Beaucoup. Jean-Pierre Siméon, Levez-vous du tombeau, poème aux éditions Gallimard, 12,50 € à lire sans attendre. À très bientôt donc, Jean-Pierre, nous aurons le plaisir donc de te recevoir dans cette ville, très prochainement j'espère. En attendant, un grand merci et
à bientôt. Et merci à vous.
À bientôt.
Hein. Au revoir.
Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous disons à la semaine prochaine à 10h.